On se souviendra longtemps de cette crise du papier de toilette suivie par la crise du manque de farine. Tout le monde en temps de pandémie, confiné à la maison, qui avait soudainement envie de faire du pain ou d'autres produits cuisinés. On a beaucoup cuisiné, entre autres en famille, chez soi. On a aussi, quand les beaux jours sont arrivés, été bricolé dehors. Voilà pourquoi on nous explique aujourd'hui que ça a créé une pression importante sur le prix de certains articles, donc dont le bois d'œuvre qui a bondi d'au moins 50% depuis les derniers mois. Évidemment, c'est vrai qu'on n'aurait jamais pensé qu'on se mettrait tous à bricoler autant. L'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction est très étonnée de ça, mais depuis cette pandémie, c'est Noël pour eux quasiment tous les jours. Il y a plusieurs produits, articles, matériaux qui ont été l'objet de pénuries et qui le sont encore. On a beaucoup parlé des kayaks, par exemple, des thermopompes, des airs climatisés. Il y en a eu beaucoup aussi et qu'ils sont toujours. On va parler tout de suite à Amélie Guévremont, qui est professeure à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Elle est une des auteurs de cette Vigie Conso COVID-19. Je pense que vous n'avez pas vraiment souvent entendu parler de ça. C'est super intéressant. C'est une vigie qui, dans le fond, a suivi nos habitudes de consommation durant la pandémie. Amélie est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Je suis passée à travers rapidement votre Vigie Conso COVID-19. Et sincèrement, Amélie, on apprend des choses vraiment... Ça confirme en fait des choses qu'on savait. C'est qu'en période de confinement, on a un peu modifié nos pratiques. Qu'est-ce que vous retenez de cette Vigie Consommation en temps de pandémie?
Oui, tout à fait. Bien, en fait, comme vous l'avez mentionné, on a suivi en fait les comportements des consommateurs pendant les 3 premiers mois de la pandémie, notamment en termes de produits achetés, mais aussi au niveau des activités qu'ils ont pratiquées. Et ce qu'on retient, entre autres, comme vous avez mentionné en début d'émission, la pandémie qui a eu un impact assez important sur le fait maison. Donc, les Québécois qui ont cuisiné davantage, en famille aussi. Et tout ce qui touche les activités, soit à l'intérieur ou autour de la maison, ont aussi été très, très populaires. Jardinage, bricolage, rénovation. Donc, on a vu une croissance importante des Québécois, finalement, qui se sont adonnés à ces activités-là. Une tendance qui favorise le confort puis la commodité à la maison. C'est un peu ça qui est ressorti de nos études qu'on a réalisées. Et donc, ça, c'est un des aspects qu'on a remarqué, et que c'était fait pas uniquement pour des raisons économiques, mais que les gens ont trouvé leur plaisir là-dedans. Donc, ils ont apprécié faire ces activités-là à la maison, ils ont apprécié cuisiner davantage, ils ont fait des nouvelles recettes qu'ils pratiquaient pas avant. Donc, on a regardé plusieurs changements, en fait, à ce niveau-là.
Chez les jeunes, d'ailleurs, Amélie Guévremont, ça a été très bon parce que vous dites, oui, ils ont cuisiné en famille. Cuisiner, là, c'est vraiment, là, je me base entre autres sur la vigie du mois du 15 avril au 15 mai, les Québécois cuisinaient, 70% des Québécois cuisinaient.
Oui.
C'est fou, là.
Oui, tout à fait, on cuisine davantage.
Ouais. Après, il y en avait à peu près 37% qui faisaient des réparations, 36% ont planté des légumes, 36% ont consulté des tutoriels pour apprendre à faire des choses par eux-mêmes, ils ont bricolé, ils ont rénové, ils ont transformé des objets, ils sont mis à faire de la couture, puis pas juste de masques. Hein? Et là, ce que je retiens aussi, c'est que les plus jeunes, les 18-34, ont été les plus actifs sur à peu près toutes ces pratiques du cuisiner plus.
Tout à fait. Les femmes aussi, dans certaines pratiques, ont été un peu plus attirées vers ces pratiques-là. Mais oui, comme vous le mentionnez, les jeunes qui ont pris goût à certaines activités davantage que les autres classes d'âge. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça a été une façon finalement de s'habituer à cette situation-là. Puis parce qu'évidemment, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas faire d'autres activités qu'on fait habituellement. Donc, on peut voir ça un peu comme un transfert d'activités habituelles. On a concentré ça sur l'intérieur puis le plaisir à la maison d'une certaine façon.
Voilà. Puis vous posez une question là-dedans. Vous avez demandé aux gens, vous vous êtes rendu compte en fait que les gens, s'ils faisaient toutes ces choses qu'on vient de nommer, c'est parce que dans quasiment 50% des cas, ils s'ennuyaient. On s'est beaucoup ennuyé aussi. On s'est désennuyé en faisant d'autres choses. On s'est trouvé des activités, mais il y a des gens qui disaient, ben moi j'ai fait ça parce que c'est une contrainte. Hein? Alors je me suis mis à faire des affaires à la maison, mais je m'ennuyais.
Oui, mais finalement, j'ai trouvé, il y en a qui ont trouvé leur compte là-dedans puis qui ont apprécié ces nouvelles activités-là.
Mm-hmm.
Et ça rejoint aussi un autre élément qu'on a vu, le fait que évidemment, on avait plus de temps libre, mm-hmm. Pas nécessairement par choix, mais on a dû composer avec un rythme de vie qui était très affecté en raison de la situation. Et là aussi, ce que nos chiffres montrent, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs, beaucoup de Québécois qui ont apprécié ce temps-là, ce rythme de vie qui était un peu plus simple, avec davantage de temps passé en famille. Donc, on voit qu'il y a une appréciation de cette routine de vie qui était un peu plus douce, comme je le disais, de façon forcée pour certains, de façon imposée. Mais reste que ce temps-là, à la maison, en famille, a été aussi apprécié par beaucoup de Québécois selon nos résultats.
Voilà. On a évidemment modéré nos achats parce qu'on n'avait pas le choix. Oui. On était confinés. On pouvait pas aller faire des achats dans les magasins. Beaucoup se sont tournés vers l'achat en ligne. On a quand même mm-hmm. été plus frugal. Mm-hmm. On a été contraints à l'être. On a été aussi frugal volontairement, vous vous rendez compte de ça? Donc, ça confirme, d'après vous, une tendance à la déconsommation?
Oui, ben c'est difficile de conclure parce qu'évidemment, on a observé seulement quelques mois, le début de la pandémie. Cela dit, on va bientôt poursuivre avec une autre étude qui va voir aujourd'hui où en sont les Québécois par rapport mmh. à ça. Mais effectivement, ce qu'on a vu, c'est que cette dépense forcée-là d'achat, certains Québécois ont pris goût à ça d'une certaine façon parce que on voit que plus de la moitié des Québécois ont réalisé qu'ils faisaient des achats superflus. Une espèce de questionnement sur la surconsommation qu'on pouvait exercer et le fait, cette pause obligée-là, même si on pouvait continuer à consommer en ligne, mais cette pause-là a quand même amené certains consommateurs à réfléchir aux achats peut-être pas si important que ça qu'il faisait avant cette situation-là. Oui, une petite tendance à la mm-hmm. déconsommation. On va voir si ça se poursuit, mais c'est intéressant aussi à ce niveau-là.
C'est intéressant, mais ça peut être inquiétant, en particulier pour ma prochaine invitée. Je vais la présenter après la pause tout à l'heure parce qu'elle est présidente, directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de cris d'alarme, Amélie Guévremont, qui sont lancés par toutes sortes de gens du milieu économique, que ce soit ceux à la Ville de Montréal qui disent ramenez-vous en ville, on a besoin de mm-hmm. vous. Tous les acteurs un peu partout au Québec qui disent, écoutez, les emplois, là, il y a des chiffres incroyables. Je lisais encore pas longtemps, 70 % des emplois auront été modifiés d'une façon ou d'une autre par cette pandémie. C'est important, là, la trace que va avoir laissé la COVID sur les secteurs économiques au Québec. Là, si le monde en plus déconsomme, ça peut être inquiétant.
Oui, mais en fait, comme je disais, reste à voir. C'est possible que le consommateur a la mémoire courte et dès que tout revient à la normale, il va se remettre à consommer. Donc, ça peut quand même, cette situation-là peut se produire. Puis, il reste que ce qu'on a vu aussi, c'est l'intérêt accru pour l'achat local. Mm-hmm. Donc, oui, il y a certaines réflexions sur la consommation, mais tout ce qui touche la sensibilisation à l'achat local, on a vu que tout au long de la pandémie, les consommateurs étaient plus sensibilisés à ça. Et à la fin, en fait, un Québécois sur deux nous disait qu'il avait découvert une nouvelle entreprise locale qu'il connaissait pas avant la pandémie. Donc, on peut penser que c'est en raison de différentes initiatives qui ont été effectuées pour favoriser l'achat local. Mais là, il y a vraiment un impact et une sensibilisation, le fait que les Québécois sont conscients justement des difficultés que peuvent avoir plusieurs détaillants ou autres et ont quand même ce souci-là d'encourager l'achat local. Donc là, il y a peut-être un côté positif à ce niveau-là qu'on a vu aussi.
Mmh. En même temps, bon, je pense que vous l'avez vu dans votre vigile en temps de confinement, les gens disaient, c'est clair que mon pouvoir d'achat a baissé.
Oui.
Est-ce que depuis qu'on est sorti du confinement, est-ce qu'il a augmenté tant que ça? Je suis pas sûre. Il y a beaucoup de monde qui sont encore sur la PCU. Il y a des gens qui sont au chômage. Même s'il y a une certaine reprise, on espérait que ça soit plus rapide. Là, on nous parle d'une deuxième vague. Fait, c'est rien pour pas inquiéter le monde. La tendance va vers quoi, vous diriez? Le prix, ça reste toujours le nerf de la guerre?
Oui, ben on a remarqué, le prix est toujours important, mais ce qu'on a vu, il y a une sensibilisation encore plus grande face au prix. Donc oui, c'est extrêmement important, puis ce l'est encore. Notamment parce que l'incertitude, elle est là. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. On parle d'une deuxième vague et autres. Donc, c'est pas réglé là, pour tous les consommateurs, cette idée-là de reprise ou de poursuite des activités, de retour à la normale. Donc, je pense qu'il y a quand même une crainte importante. Puis, le prix va être un des éléments centraux, évidemment, dans l'esprit du consommateur quand il y a un choix à faire. Mm-hmm.
Est-ce que vous sentez que les gens sont plus stressés financièrement?
Ben en fait, ça aussi, on l'a questionné, puis comme nous, on est davantage dans les perceptions, à quel point les consommateurs se sentent stressés. Mm-hmm. Puis oui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une augmentation du stress financier. On a mesuré aussi l'anxiété globale pendant la crise. Et donc, évidemment, ça peut être causé par divers facteurs, la crainte d'attraper le virus et autres. Mais il y a aussi une part de ça qui est liée à la situation financière des gens. Et ce qu'on voyait, c'est que le niveau d'anxiété qui était assez élevé, notamment au niveau des femmes, au niveau des Montréalais, peut-être parce qu'il y avait davantage d'éclosions, justement, à Montréal. Mm-hmm. Mais on a remarqué, justement, cette anxiété-là qui était assez importante. Cela dit, plus on avançait en avril, mai, juin, et qu'il y avait un peu d'espoir, ça a diminué un peu. Mais pour ce qui est du stress financier, c'est certain qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Québécois qui doivent composer avec ça. Parce que tout n'est pas revenu à la normale, c'est certain.
Ouais. Certains types de transformations ou d'habitudes prises pendant le confinement semblent durer ou perdurer. Là. Qu'est-ce qu'on peut dire là, qui risque de rester dans nos habitudes de consommation, Amélie Guévremont?
On a questionné les consommateurs sur leurs intentions, donc leurs intentions de poursuivre des activités. Comme je vous disais, je peux pas tout prévoir, mais on va avoir certaines études qui vont confirmer en fait nos hypothèses. Mais on peut penser que les habitudes au niveau du fait maison vont perdurer parce qu'elles ont été effectuées pendant une bonne période de temps. C'est pas simplement une semaine ou deux, mais à partir du moment où on répète une activité de façon hebdomadaire, qu'on apprend par exemple à mieux cuisiner, à bricoler ou à rénover. C'est possible que ce soit une habitude qui commence à être ancrée chez la personne. Donc, ce nouvel intérêt-là pour certains Québécois pourrait durer. Au niveau de l'achat local, ça aussi, en termes d'intention, ça ressortait beaucoup dans nos enquêtes. Donc, les gens qui ont l'intention de continuer à soutenir ces entreprises locales-là. Donc, je pense qu'il y a une sensibilisation qui a été faite, puis on se rend compte que c'est vrai qu'on peut vraiment faire une différence par les choix qu'on fait.
Tellement.
Les consommateurs nous disaient qu'à chaque fois qu'ils ont à choisir entre un produit, s'il y a l'équivalent local, c'est le produit local qui va être préféré. Ouais. Après, vient l'enjeu du prix. Si c'est plus cher, comme on le disait, bon, après ça, il y a d'autres... Il y a d'autres facteurs, mais il y a quand même le côté local qui devrait avoir gagné un peu au niveau de ce qui s'est passé pendant la crise. Donc, pour le reste, dans ce qui va changer, quand je parlais de déconsommation, ça, l'avenir nous le dira, c'est un peu difficile de voir à quel point cette réflexion-là sur la consommation va durer parce que quand tout sera réellement à la normale, c'est possible que nos habitudes de consommation ou peut-être de surconsommation reviennent rapidement.
Ouais, la mémoire est une faculté qui oublie, fait que ça se peut qu'on retombe dans nos bonnes vieilles pantoufles.
Oui, c'est ça. Puis sinon, mais j'ai pas parlé, mais il y a certains aspects de la consommation responsable, notamment l'achat en vrac, qui était quand même sur une belle croissance avant la pandémie, qui a beaucoup souffert, on peut comprendre, pendant cette période-là. Donc, l'industrie du vrac, qui est encore aujourd'hui au ralenti, mais ça va être intéressant de suivre comment les consommateurs vont faire. Est-ce qu'ils vont décider de reprendre, en fait, cette activité-là qui était jugée risquée, évidemment, au niveau... sanitaire. Donc, ça aussi, ça sera intéressant à suivre.
Fait que là, vous continuez de suivre ça, de faire une vigie conso COVID-19 en ce moment.
On en a une dans les prochaines semaines. Donc, elle n'est pas en cours maintenant, mais en novembre, on devrait avoir des résultats plus à jour. Donc, quelques mois après notre dernière en juin. Donc, on va voir ce qu'il y en est des intentions, j'allais dire des belles intentions, mais de ce que les consommateurs ont réellement fait en novembre. Et là, peut-être que la situation aussi va avoir évolué au niveau du virus et on verra si ça a influencé aussi les choix qu'on a faits.
Oui, c'est drôle parce que ce matin, il y avait un article justement dans la presse, puis on va se laisser là-dessus, Amélie, mais qui disait, évidemment, les matériaux de rénovation, on en a parlé, ça a beaucoup marché. Les tondeuses à cheveux, parce qu'on ne voulait plus aller se faire coiffer les cheveux nous-mêmes, pas chez notre coiffeur préféré. Les cigarettes et le fromage bleu. La comprenez-vous, celle-là, le fromage bleu? Comment se fait?
Non, je ne la comprends pas tant que ça. Mais pourquoi celui-ci en particulier, je ne sais pas. Il reste que les achats de réconfort, de plaisir dans l'alimentation, ça, on a vu un impact à ce niveau-là. Donc, peut-être que c'est vu par certains comme une gâterie ou un produit...
191% d'augmentation. 191% Amélie, d'augmentation du fromage bleu. Il y a eu quelque chose avec le fromage bleu, puis on l'a comme pas saisi.
C'est ça, c'est comme le papier de toilette au début. Là. Ouais. Ça va être difficile à comprendre ce qui s'est passé.
Oui, intéressant. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, parce que moi, je n'étais pas au courant de cette vigie que vous faites, puis je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça confirme certaines tendances. Je vais poursuivre la discussion avec la présidente des manufacturiers exportateurs du Québec. Merci beaucoup, Amélie Guévremont. On aura l'occasion de se reparler donc au mois de novembre. Amélie est professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle est co-auteure de cette vigie conso COVID-19. Ça m'amène à vous demander, vous, le fromage bleu, êtes-vous tombé dedans? Avez-vous comme acheté ça? Moi, j'avoue qu'à un moment donné, on a comme eu un petit craving pour du fromage à la truffe. Mais c'était surtout parce que j'encourageais une commerçante à Verdun et que c'était un nouveau produit qu'elle avait. Fait qu'on cherchait quelque chose qui allait nous amener un petit peu de bonheur. Fait que pour toi, c'est peut-être le fromage bleu. Pour d'autres, ben, ça a été de l'aromathérapie. Ça aussi, des chandelles, des produits pour le bain. Qu'est-ce que vous avez acheté plus que d'habitude en temps de pandémie et que vous avez peut-être encore gardé? 514-790-9850. On vous parle tout de suite après. Restez là, tout le monde. Alors, je vous disais qu'il y avait certains produits non essentiels ou de réconfort qui et alimentaires, bien sûr, qui ont connu beaucoup de popularité pendant les mois de confinement. Et encore cet été, je vous disais que le fromage bleu, selon une analyse, c'est un engouement là, qui a fait augmenter les ventes de plus, quasiment 200%. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le jarret de bœuf, ça a l'air que le jarret de bœuf, ça a été bien populaire aussi. Les selles de bain, les récompenses pour les animaux également. C'est vrai qu'on a été plus tournés vers nos animaux de compagnie. On les a pas lâchés une minute. Fait qu'on leur donnait plus de petites gâteries. Il y a tout ça. Mario, bonjour.
Bonjour.
Vous, qu'est-ce que vous avez utilisé plus, consommé plus que d'habitude?
Ben moi, en fait, c'est le fromage bleu, parce que le fromage bleu, quand on voulait se faire un petit plaisir, c'est fromage bleu, porto, raisin, c'est un mariage parfait. Ah. Donc, c'est peut-être la raison de l'augmentation du fromage bleu.
Sans doute, ça allait avec le porto, finalement.
Oui, oui, oui.
Et là, ça, c'était pendant la pandémie, mais depuis, avez-vous continué d'acheter du fromage bleu?
Ben ça reste, oui, on dirait que, je sais pas, pendant la pandémie, le porto, ça a été sans exagération, mais une boisson de réconfort, puis à minute, moi, un verre de porto, ça va avec du fromage bleu. Fait que oui, ça va rester.
Ah, bon, ben merci Mario. José, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, est-ce que c'est le fromage bleu, vous aussi, José?
Non, pas du tout, nous, c'est des poussins.
Des poussins?
Pour vous faire rire. Oui, habituellement, nous, on achète, on a des animaux pour la consommation et on se prend à peu près 25 poussins en début d'été. Puis là, ben, avec ce qui s'en venait, en sachant pas si on allait être capable de s'alimenter, parce qu'au début, c'était quand même difficile. Alors, on en a pris 250.
Oh, wow! Et là, donc, vous avez vous avez toute une basse cour, hein?
Mais là, ils sont déjà au congélateur, parce que ça a quand même un temps prescrit là, pour pouvoir les engraisser et tout ça. Mais on en a pour la famille, on en a, tu sais, advenant, puis je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer, parce que maintenant on peut les vendre puis ça va bien. Les gens apprécient, puis on sait ce qu'ils mangent, c'est des poulets de grains, c'est pas des poulets injectés rien. Mm-hmm. Alors ils sont libres aussi, tu sais, quand même, ils sont pas pris trop dans un petit endroit. Alors,
fait que vous avez une ferme, José?
Oui.
Qui est à quel endroit?
À Saint-Lin.
Saint-Lin. Avez-vous remarqué que les gens sont plus friands de produits du terroir?
Oui, il y en a qui, maintenant, vont pas regarder le prix, parce qu'on se le cacherait pas. C'est plus dispendieux que si on va chercher un poulet au Super C, là.
Ouais.
Mais il y en a, malheureusement, étant donné qu'il y en a beaucoup qui ont le budget diminué, vont quand même regarder ce petit côté-là, et je le comprends très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé, non, nous, on veut manger des bons produits, puis c'est...
Puis on va mettre le prix.
Je trouve pas que ça fait une grosse... Oui, c'est pas tant une grosse différence, parce que la qualité, elle est là.
Ouais. Combien ça coûte un poulet de grain comme ça, là, qu'on achète à votre ferme à Saint-Lin? Combien ça coûte?
Ben, c'est à peu près 4,90 la livre.
OK.
À peu près 4,90. 4,90 $ la livre. Fait que moi, j'en ai entre 20 et 40 $ à peu près, là, présentement.
Mmh. Bon, mais je pense que vous êtes sur le bord de l'autoroute. Je vais vous laisser. Soyez en sécurité. Merci beaucoup de votre appel. Merci bien, José. Bonjour, Claude.
Bonjour, mademoiselle Isabelle.
On vous écoute, Claude. Qu'est-ce que vous avez plus consommé,
moi, vous? Depuis le mois de mars, que je m'informe un peu partout, j'ai commencé à prendre de la vitamine D, haute dose, et de la quercétine.
Ah bon, vous êtes occupé de votre santé.
Oui.
Avec la des suppléments.
Oui, la quercétine, c'est un aliment naturel, je crois, à la base, qui est un peu de la même famille que l'hydroxychloroquine.
Mm-hmm. Mais là,
malheureusement interdit.
Mais est-ce que c'était pour vous prémunir d'attraper la COVID?
Ben oui.
Okay.
La quercétine, en tout cas, à date, malgré que j'ai vu 50 000 personnes dans toutes les manifestations auxquelles j'ai participé, ça va très bien.
Bon, ben tant mieux. Merci, Claude. On va parler à Véronique Proulx, qui est présidente directrice générale des manufacturiers et exportateurs du Québec. Bonjour, Véronique Proulx.
Bonjour.
On parlait tout à l'heure avec Amélie Guévremont, là, qui a fait une vigie consommation pour voir un peu ce que les gens avaient consommé et qu'est-ce qui allait rester finalement de cette pandémie. Évidemment, elle nous a tressé le portrait des mois de confinement, mais là, on se dit, bon, maintenant qu'on voudrait bien que ça reprenne, c'est sûr que ces derniers mois, et puis il y a eu toutes sortes d'événements, la grève du CN, bon, le port de Montréal aussi qui a été un peu congestionné pendant un petit moment, la COVID, tout ça, là, c'est pas évident pour vous quand même, puis pour les entreprises du Québec?
Non, ça a été une année particulièrement difficile où on a eu une série de crises, comme vous l'avez mentionné, qui ont eu un impact sur le secteur, sur la santé du secteur, mais aussi sur sa capacité d'approvisionnement.
Et là, les stocks, vous les qualifieriez comment là, en ce moment? Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, mon Dieu, il y a encore beaucoup, beaucoup de pénuries. Quand on va dans un endroit, ne serait-ce que pour des ordinateurs, quelqu'un m'écrivait là ça, que les stocks sont très bas. Il manque beaucoup de choses encore. Là.
Exactement. Donc, comme je le mentionnais, ça a été une année difficile et ça devenait difficile pour les manufacturiers d'avoir accès à des pièces, des composantes ou même à des produits finis qui sont revendus ici. Et le port de Montréal, dans les dernières semaines, ben, ça a été un élément qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, on se retrouve en rupture de stock. Donc, c'est pas étonnant de voir qu'on manque des produits sur les tablettes pour la consommation de tous les jours. Mais c'est également vrai auprès des manufacturiers qui essaient de s'approvisionner pour fabriquer d'autres produits. Il existe encore, il y a beaucoup de délais présentement dans le secteur.
J'étais dans un magasin cette semaine qui me disait on a du stock de coincé dans des containers au port de Montréal, il n'y a rien qu'on peut faire. Comment vous qualifiez l'impact de la grève des débardeurs du Vieux-Port, Véronique Proulx?
Mais la grève a eu un impact important et très négatif sur l'économie, sur le secteur. C'est allé bien au-delà des travailleurs et des employeurs qui étaient concernés. Ça avait un impact sur l'ensemble de l'économie. Et comme je le mentionnais, les manufacturiers sont des utilisateurs du port, mais eux n'étaient pas à la table de négociation. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était subir les conséquences de cette grève-là. Donc, on est content que ce soit derrière nous pour l'instant, mais c'est sûr que ça l'a laissé quand même sa trace. Et je vous dirais, je vais faire le parallèle avec les produits dont on manque sur les tablettes. Oui, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, mais en même temps, il y a des secteurs qui vont très bien où la demande a été plus importante. Vous faisiez référence à quelques produits tout à l'heure. On peut penser à la rénovation. On entendait parler des piscines privées où il y a eu une forte demande. Donc, ce sont des secteurs où la demande est très forte. On a des défis d'approvisionnement. Donc, ça nous amène à avoir certaines ruptures de stock. Mais tout ça pour dire qu'il y a des secteurs qui vont quand même très bien puis qui contribuent à la relance économique présentement et c'est très positif.
Oui, en même temps, bon, il y a beaucoup de vos membres qui sont inquiets, là. Il y a beaucoup de manufacturiers qui ont de la misère encore à se trouver du monde. Exporter dans un contexte encore comme celui d'aujourd'hui, de pandémie, là, c'est pas simple non plus. Il y a un article de journal aujourd'hui d'un propriétaire d'usine qui a même pas pu avoir les travailleurs étrangers qui devaient venir y expliquer comment fonctionnait la machine qu'il a achetée à gros frais. C'est pas simple. Puis en même temps, bien, on dit qu'il faut relancer à tout prix l'économie du Québec. C'est important pour le gouvernement Legault. Qu'est-ce qu'il faut, Véronique Proulx, pour relancer adéquatement l'économie du Québec? Pour vous,
en fait, vous venez de nommer les trois grands enjeux que l'on rencontre. Donc, la question de la pénurie de main-d'œuvre, même si présentement, il y a un taux de chômage qui est très élevé, puis les données sont sorties ce matin, c'est quand même plus positif. On manque de travailleurs. On manque d'électromécaniciens ou de soudeurs dans le Bas-Saint-Laurent. On manque de manutentionnaires en Estrie. Donc, partout dans toutes les régions du Québec, on manque de travailleurs spécialisés et non spécialisés. Et ça fait en sorte que, comme l'entrepreneur de Laval ce matin, ça fait en sorte qu'il doit refuser ou qu'il peut perdre des contrats parce qu'il n'y a pas accès aux travailleurs dont ils ont besoin. Fait que la question de l'immigration et des travailleurs étrangers temporaires, c'est essentiel. Il faut régler ça. Il faut bouger là-dessus. Deuxièmement, vous avez parlé de l'exportation. C'est un gros point d'interrogation. Comment on fait pour exporter si on n'est pas capable de se déplacer? Si on n'est pas capable d'aller de l'autre côté de la frontière aux États-Unis rencontrer des clients? Donc, on a demandé aux deux gouvernements de considérer de mettre en place des tests COVID lorsqu'on revient à l'aéroport. Donc, on se déplace aux États-Unis, on revient. Plutôt que se confiner pendant 2 semaines, on fait le test. Et à l'intérieur de quelques jours, ben, on peut retourner travailler et retourner à nos occupations. Donc, ça permettrait aux gens de se déplacer plus facilement. Et finalement, la troisième enjeu priorité, sachant que la demande mondiale de produits baisse, nos manufacturiers s'attendent à ce que le gouvernement du Québec, notamment, puisse stimuler l'achat local, puisse revoir ses politiques d'approvisionnement local pour laisser plus de place à nos manufacturiers. Et cette semaine, on a été très heureux d'entendre le premier ministre Legault dire « on veut plus d'achat local, on veut plus de produits fabriqués au Québec ». Pour nous, c'est vraiment une avenue intéressante qui peut aider les manufacturiers à passer au travers de la crise.
Est-ce qu'on priorise assez nos produits locaux?
Non, je pense pas. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Un, pour faire connaître quels sont les produits locaux. Quand on se déplace en épicerie ou dans un magasin, qu'est-ce qui est fabriqué au Québec? Qu'est-ce que ça veut dire fabriquer au Québec? Et tout l'initiative du panier bleu du gouvernement du Québec vise entre autres à faire ça. Et après ça, quand on se retourne vers le gouvernement qui achète une quantité phénoménale de produits et de services par année, comment est-ce qu'il fait pour revoir ses critères pour mieux choisir des entreprises québécoises tout en respectant les règles de commerce international? Alors, pour nous, là, ça, c'est une voie vraiment prioritaire que le gouvernement doit suivre dans les prochains mois.
Vous parlez de la frontière canado-américaine. Est-ce que vous comptez les jours avant qu'on puisse la rouvrir? Est-ce que, d'après vous, il faudrait la rouvrir plus tôt que tard?
Ben, je voudrais que la situation aux États-Unis est quand même inquiétante. Alors, nous, les travailleurs dans le secteur manufacturier sont reconnus comme essentiels. Ils ont le droit de se déplacer, mais l'enjeu, c'est qu'ils doivent se confiner. Alors, ça fait en sorte que des entreprises peuvent pas se permettre d'avoir des travailleurs qui sont confinés 2 semaines à l'aller et 2 semaines au retour. Alors, les tests COVID, ben, ça serait une façon de permettre aux gens de voyager plus facilement puis de continuer à faire du commerce pour permettre de relancer l'économie québécoise.
Puis le 14 jours, c'est un peu long, là, comme quarantaine, comme quatorzaine. Là.
Exactement. C'est très long, surtout dans un contexte où on manque de travailleurs et tout va à la vitesse grand V. Ouais.
Merci beaucoup, Véronique Proulx, présidente directrice générale des manufacturiers et exportateurs du Québec. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause, ben, parce que c'est l'heure du lunch qui s'en vient bientôt. Je sais que vous êtes peut-être en train de prévoir votre fin de semaine. Il fera quand même assez beau pour faire un petit barbecue dehors. On a décidé justement de vous donner quelques idées de recettes santé sur le barbecue avec la nutritionniste Geneviève Augleman. À tout de suite, tout le monde.